Chapitre 7. Le père Planta s'arrêta. Ses auditeurs, depuis qu'il parlait, ne s'étaient permis ni un geste ni un mot. Tout en écoutant, M. Lecoq réfléchissait. Il se demandait d'où pouvaient venir ces détails précis jusqu'à la minutie. Qui avait rédigé cette terrible biographie de Trémorel? Et son regard se coulant jusqu'au dossier, il distinguait fort bien que toutes les feuilles n'étaient pas de la même écriture. Mais déjà le vieux juge de paix poursuivait. Devenue Madame Sauvresy, grâce à un coup inespéré du sort, Berthe Le Chaillu n'aimait pas son mari. Cette fille d'un pauvre maître d'école de campagne, dont les plus folles visées d'ambition ne dépassaient pas jadis une place de sous-maîtresse dans un des pensionnats de Versailles, n'était pas satisfaite de sa situation. Reine absolue du plus beau domaine du pays, entourée de toutes les satisfactions du luxe, disposant à son gré d'une fortune considérable, aimée, adorée, elle se trouvait à plaindre. Cette vie si bien ordonnée, si constamment heureuse, sans inquiétude, sans secousse, lui paraissait d'une écœurante insipidité. N'était-ce pas toujours les mêmes plaisirs fades, revenant dans un certain ordre monotone selon les saisons? On recevait ou on allait dans le monde, on montait à cheval, on chassait, on se promenait en voiture, et ce serait toujours ainsi. Oh, ce n'était pas là une vie telle qu'elle l'avait rêvée. Elle était née pour des jouissances plus vives et plus âpres. Elle avait soif d'émotions et de sensations inconnues, souhaitait l'incertitude de l'avenir, l'imprévu, les transitions, des passions, des aventures, bien d'autres choses encore. Puis, Sauvresy lui avait déplu dès le premier jour, et sa secrète aversion allait grandissant à mesure qu'elle devenait plus sûre de son empire sur lui. Elle le trouvait commun, vulgaire, ridicule. Il ne posait jamais et elle prenait pour de la niaiserie la parfaite simplicité de ses manières. Elle l'examinait, elle ne lui voyait aucun relief ou accrochait une admiration. S'il parlait, elle ne l'écoutait pas, ayant depuis longtemps décidé dans sa sagesse qu'il ne pouvait rien dire que d'ennuyeux ou de banal. Elle lui en voulait de ce qu'il n'avait pas eu de ces jeunesses orageuses qui épouvantent les familles. Elle lui reprochait de n'avoir pas vécu. Il avait cependant fait comme les autres, tant bien que mal. Il était allé à Paris autrefois et avait essayé le genre de vie de son ami Trémorel. Au bout de 6 mois, il en avait par-dessus les yeux et revenait bien vite au Valfeuillu se reposer de jouissances si laborieuses. L'expérience lui coûtait 100 000 francs, et il ne regrettait pas, disait-il, d'avoir à ce prix étudié ce qu'est au juste la vie de plaisir. Berthe était excédée encore de l'adoration perpétuelle et sans bornes de Sauvresy. Elle n'avait qu'à souhaiter pour être à l'instant obéie, et cette soumission aveugle à toutes ses volontés lui paraissait de la servilité chez un homme. Un homme, se disait-elle, est né pour commander et non pour obéir, pour être le maître et non l'esclave. Elle aurait à tout prendre préféré un de ces maris qu'on guette à la fenêtre, qui rentrent au milieu de la nuit, chose encore de l'orgie, ayant perdu au jeu, ivre, et qui, si on se plaint, frappe des tyrans, mais des hommes. Quelques mois après son mariage, tout à coup, elle se mit à avoir les fantaisies les plus absurdes, les caprices les plus extravagants. C'était une épreuve. Elle voulait voir jusqu'où irait la complaisance inaltérable de son mari. Elle pensait le lasser. Ce fut elle qui se lassa, furieuse de n'avoir rencontré ni une résistance ni une objection. Être sûre de son mari, mais sûre absolument, savoir qu'on emplit assez son cœur pour qu'il n'y ait aucune place pour une autre, n'avoir rien à redouter, pas même un entraînement ou un caprice d'un jour, lui paraissait désolant, intolérable. À quoi bon être belle alors, spirituelle, jeune, coquette, à faire tourner toutes les têtes. Peut-être l'aversion de Berthe datait-elle de plus loin. Elle se connaissait et s'avouait que, pour peu que Sauvresie l'eût voulu, elle eût été sa maîtresse et non pas sa femme. Il n'avait qu'à vouloir, l'honnête homme, l'imbécile. Elle s'ennuyait tant chez son père, et gratignant jusqu'au sang toutes ses vanités aux épines de la misère, que sur la promesse d'un bel appartement et d'une voiture à Paris, elle serait partie sans seulement tourner la tête pour envoyer un dernier adieu au toit paternel. Une voiture. Elle aurait décampé pour bien moins. L'occasion seule avait manqué à ses instincts, et elle méprisait son mari de ce qu'il n'avait pas assez méprisé. Sans cesse, cependant, on lui répétait qu'elle était la plus heureuse des femmes. Heureuse. Et il y avait des jours où elle pleurait en songeant à son mariage. Heureuse. Mais il y avait des instants où elle se sentait d'une envie folle de fuir, de partir en quête d'émotions, d'aventures, de plaisirs, de tout ce qu'elle désirait, de tout ce qu'elle n'avait pas et qu'elle n'aurait jamais. L'effroi de la misère, oh, elle le connaissait, le retenait. Il venait un peu, cet effroi, d'une très sage précaution de son père, mort depuis peu, dont elle portait le deuil avec ostentation, qu'elle pleurait à chaudes larmes, mais dont elle maudissait la mémoire. Lors de son mariage, Sauvresie désirait, par le contrat, reconnaître à sa future un apport de 500 000 francs. Le bonhomme, le chahut, s'était formellement opposé à cet acte de munificence. « Ma fille ne vous apporte rien, » avait-il déclaré. « Vous lui reconnaîtrez 40 000 francs de dot, si vous voulez, mais pas un sou avec. Ah, sinon pas de mariage. » Et comme Sauvresie insistait, « Laissez-moi donc, » avait-il répondu. « Ma fille sera, je l'espère, une bonne et digne épouse, et en ce cas, votre fortune est la sienne. » Si au contraire elle venait à se mal conduire, 40 000 francs seraient encore trop. Après ça, si vous craignez de mourir le premier, vous êtes libre de faire un testament. Force fut d'obéir. Peut-être le père Le Chahut, le digne maître d'école, connaissait-il sa fille. Il était seul en ce cas à l'avoir deviné, car jamais une hypocrisie plus consommée ne fut mise au service d'une perversité si profonde qu'elle peut sembler exagérée, d'une dépravation inconcevable chez une femme jeune et ayant peu vu le monde. Si elle se jugeait au fond du cœur la plus infortunée des créatures, il n'en parut jamais rien, ce fut un secret bien gardé. Tous ses actes furent si bien marqués au coin d'une politique savante que son admirable comédie fit illusion même à l'œil perçant de la jalousie. Elle avait su se composer, et pour son mari, à défaut de l'amour qu'elle ne ressentait pas, les apparences d'une passion à la fois brûlante et discrète, que trahissaient certains regards jetés à la dérobée, et, surpris, un mot, sa contenance dans un salon quand il entrait. Si bien que tout le monde disait « Oh, la belle Berthe est folle de son mari !» C'était la conviction de Sauvresie, et il était le premier à dire, sans cacher la joie qu'il en éprouvait, « Ma femme m'adore !» Telle était exactement la situation des maîtres du Valfeuillu, lorsque Sauvresie recueillit à Sèvres, sur le bord de la Seine, le pistolet à la main, son ami Trémorel. Ce soir-là, pour la première fois depuis son mariage, Sauvresie manqua le dîner après avoir promis d'arriver à l'heure et se fit attendre. Si incompréhensible était l'inexactitude, que Berthe eût dû être inquiète. Elle n'était qu'indignée de ce qu'elle appelait un manque absolu d'égard. Même elle se demandait quelle punition elle infligerait au coupable, lorsque, sur les 10 heures du soir, la porte du salon de Valfeuillu s'ouvrit brusquement. Sauvresie était sur le seuil, gai, souriant. « Berthe, dit-il, je t'amène un revenant. » C'est à peine si elle daigna lever la tête, et encore sans perdre la linéa du journal qu'elle lisait. Zorézy continuait. Un revenant que tu connais, dont je t'ai parlé bien souvent, que tu aimeras puisque je l'aime et qu'il est mon plus vieux camarade, mon meilleur ami. Et s'effaçant, il poussa Hector dans le salon en disant « Madame Sauvresy, permettez-moi de vous présenter Monsieur le comte Hector de Trémorel. » Berthe se leva brusquement, rouge, émue, agitée d'une émotion inexprimable, comme à une apparition effrayante. Pour la première fois de sa vie, elle était confuse, intimidée, et n'osait lever ses grands yeux d'un bleu clair à reflets couleur d'acier. « Monsieur, balbutia-t-elle, monsieur, croyez du moment où mon mari, soyez le bienvenu. » Ce nom de Trémorel, qui éclatait là tout à coup dans son salon, elle le connaissait bien. Sans compter que Sauvresy le lui avait appris. Elle l'avait lu dans les journaux. Tous ses amis des châteaux voisins l'avaient prononcé. Dans son esprit, d'après ce qu'elle avait lu ou entendu dire, celui qui le portait devait être un personnage immense, presque surnaturel. C'était, lui avait-on dit, un héros d'un autre âge, un fou, un viveur à outrance. C'était un de ces hommes dont la vie épouvante le vulgaire, que le bourgeois idiot juge sans foi ni loi, dont les passions exorbitantes font éclater le cadre étroit des préjugés. Un de ces hommes qui dominent les autres, qu'on redoute, qui tuent pour un regard de travers, qui sèment l'or d'une main prodigue, dont la santé de fer résiste à d'effroyables excès, et qui conduisent de la même cravache sur leurs maîtresses et leurs chevaux, les plus belles et les plus extravagantes créatures de Paris, les plus nobles bêtes de l'Angleterre. Souvent dans ses rêveries désespérées, elle avait cherché à imaginer ce que pouvait être ce redoutable comte de Trémorel. Elle parait des qualités qu'elle lui supposait, les héros au bras desquels elle s'enfuyait, bien loin de son mari, au pays des aventures. Et voilà que tout à coup, il lui apparaissait. « Donne donc la main à Hector !» dit Sauvresy. Elle tendit la main. Trémorel la serra légèrement, et à ce contact, il lui sembla qu'elle recevait la secousse d'une batterie électrique. Sauvresy s'était jeté sur un fauteuil. « Vois-tu bien, Berthe, disait-il, notre ami Hector est épuisé par la vie qu'il mène. On le saurait à moins. On lui a ordonné du repos, et ce repos, il vient le chercher ici, près de nous. » « Mais, mon ami, répondait Berthe, ne crains-tu pas que monsieur le comte ne s'ennuie un peu ici ?»« Lui, pourquoi ?»« Le Valfeuilly est bien tranquille. » Nous sommes de pauvres campagnards. Me Perte parlait pour parler et pour rompre un silence qui lui pesait, pour forcer Trémorel à répondre et entendre sa voix. Tout en parlant, elle l'observait, étudiait l'effet qu'elle lui produisait. D'ordinaire, sa rayonnante beauté frappait ceux qui la voyaient pour la première fois d'un visible étonnement. Lui, restait impassible. Oh, qu'elle reconnaissait bien à cette froide, à cette superbe indifférence, le grand seigneur blasé, le viveur qui a tout essayé, tout éprouvé, tout épuisé. Et de ce qu'il ne l'admirait pas, elle l'admirait davantage. Quelle différence, pensait-elle, avec ce vulgaire Sauvresy, qu'un rien étonne, qui s'ébahit de tout, dont la physionomie trahit toutes les impressions, dont l'œil annonce tout ce qu'il va dire, bien avant qu'il ouvre la bouche. Berthe se trompait. Hector n'était ni si froid, ni si impassible qu'elle le supposait. Hector tombait simplement de lassitude. Ses nerfs bandés outre mesure pendant 24 heures se détendaient, et c'est à peine s'il pouvait se soutenir. Bientôt, il demanda la permission de se retirer. Resté seul avec sa femme, Sauvresie racontait à Berthe les circonstances déplorables, ce fut son mot, qui amenait le comte au Valfeuilly. Ami sincère, il évitait tous les détails capables de donner un ridicule à son ami. « C'est un grand enfant, disait-il, un fou. Son cerveau est malade, mais nous le soignerons, nous le guérirons. » Jamais Berthe n'avait écouté son mari avec cette attention. Elle semblait l'approuver, mais en réalité, elle admirait Trémorel. Oui, comme Miss Fancy, elle était frappée de cet héroïsme. Gaspiller sa fortune et se tuer après. Oh, soupira-t-elle, ce n'est pas Sauvresie qui en ferait autant. Non, Sauvresie n'était pas homme à se conduire comme le comte de Trémorel. Dès le lendemain de l'arrivée du comte au Valfeuilly, il annonça son intention de s'occuper sans retard des affaires de son ami. C'était à l'issue du déjeuner, dans la jolie serre, disposée en salon qui suit la salle de billard. Bien reposé, après une bonne et longue nuit dans un lit excellent, sans inquiétude pressante pour le moment, le désordre de ses vêtements réparés, Hector n'avait plus rien du naufragé de la veille. Il était de ces natures sur lesquelles les événements n'ont pas de prise, que 24 heures consolent des pires catastrophes, qui oublient les plus sévères leçons de la vie. Chassé par Sauvresie, il n'eût su où aller, et cependant il avait déjà repris l'insouciance hautaine du viveur millionnaire, habitué à plier à son gré les hommes et les circonstances. Il était redevenu impassible, froidement railleur, comme si des années s'étaient écoulées depuis sa nuit d'hôtel garni, comme si les désastres de sa fortune eussent été réparés. Et Berthe s'étonnait de ce calme après le si surprenant revers, prenant pour de la force d'âme ce qui n'était chez Trémorel que puérile imprévoyance. Ça, disait Sauvresie, puisque je deviens ton homme d'affaires, donne-moi mes instructions et quelques notions indispensables. Quel est, ou était, comme tu voudras, le chiffre de ta fortune? Je l'ignore absolument. Sauvresie, qui s'était armé d'un crayon et d'une grande feuille de papier blanc, prêt à ranger les chiffres en bataille, parut un peu surpris. « Soit, reprit-il, mettons X à l'actif et passons au passif. Que dois-tu ?» Hector eut un geste superlativement dédaigneux. « Oh, j'en sais ma foi rien, répondit-il. « Quoi, pas même vaguement ?» Oh, suffit, par exemple, je dois entre 500 000 francs à la Maison Claire, à Dervois 500 000 francs, Paris Somme à peu près au Dubois d'Orléans. Et ensuite, oh, mes souvenirs précis s'arrêtent là. Mais tu as bien au moins quelque part un carnet sur lequel tu inscrivais le chiffre de tes emprunts successifs. Non. Au moins, tu as conservé des titres, des états d'inscription, les grosses de tes diverses obligations. Oh, rien, j'ai fait hier matin une flambée de toutes mes paperasses. Le châtelain du Valfeuilly fit un bond sur sa chaise. De telles façons d'agir lui semblaient monstrueuses. Il ne pouvait pas supposer qu'Hector posait. Il posait, cependant. Et cette affectation d'ignorance était une suprême fatuité de viveur et de bon ton. Se ruiner sans savoir comme est très noble, très distingué, très ancien régime. Mais malheureux, s'écria Sauvresie, comment m'y prendre pour nettoyer ta position? Mais ne la nettoie pas, fais comme moi, laisse agir mes créanciers, ils sauront bien se débrouiller, sois tranquille. Laisse-les mettre mes biens en vente. Mais jamais! Si on arrive à une vente aux enchères, tu es absolument ruiné. Bon, un peu plus ou un peu moins. Quel sublime désintéressement, pensait Berthe. Quelle insouciance! Quel mépris admirable de l'argent! Quel noble dédain des détails mesquins et petits qui agitent le vulgaire! Sauf ainsi serait-il capable d'un pareil détachement. Certes, elle ne pouvait l'accuser d'avarice, il devenait pour elle prodigue comme un voleur, il ne lui avait jamais rien refusé, il courait au-devant de ses plus coûteuses fantaisies. Mais enfin, il avait pour le gain l'âpreté d'un fils de paysan, et en dépit de sa haute fortune, il gardait quelque chose de la vénération paternelle pour l'argent. Quand il avait un marché à passer avec un de ses fermiers, il ne craignait pas de se lever de grand matin, de monter à cheval, même en plein hiver, de faire 3 ou 4 lieues sous la pluie pour attraper quelques centaines d'écus. Il se serait ruiné pour elle si elle l'eût voulu, elle en était convaincue, mais il se serait ruiné économiquement, avec ordre, comme le plat bourgeois qui ouvre un compte à ses vices. Sauvresy réfléchissait. « Tu as raison, dit-il à Hector. Tes créanciers doivent connaître exactement ta situation. Qui sait s'ils ne s'entendent pas ? La façon dont ils refusaient 100 000 francs avec le plus touchant ensemble me le ferait supposer. Je vais aller les trouver. » La maison claire où j'ai contracté mes premiers emprunts doit être mieux renseignée. Soit je verrai M. Claire. Mais tiens, si tu étais raisonnable, sais-tu ce que tu ferais ?
Parle.
Mais tu m'accompagnerais à Paris et à nous deux. Hector, à cette proposition, s'était dressé tout pâle, l'œil étincelant. Jamais, non, interrompit-il violemment, non, jamais. C'est très cher du club l'épouvantait encore. Quoi, déchu, tombé, ridiculisé par son suicide manqué, il oserait reparaître sur le théâtre de sa gloire. Sauvresy lui ouvrait les bras. Sauvresy était un brave cœur, l'aimant assez pour ne pas s'arrêter à la fausseté de sa situation, pour ne pas le juger un lâche de ce qu'il avait reculé, mais les autres. Ne me reparle plus de Paris, ajouta-t-il d'un ton plus calme. De ma vie, je le jure, je n'y remettrai les pieds. Soit, tant mieux, reste avec nous. Ce n'est pas moi qui m'en plaindrai, ni ma femme non plus, et un beau jour, nous te trouverons une héritière dans les environs. Elle fit de la tête, sans lever les yeux, un signe affirmatif. Allons, reprit Sauvresy. Il est temps que je parte si je veux ne pas manquer le chemin de fer. Mais je t'accompagne à la gare, fit vivement Trémorel. Ce n'était pas de sa part une prévenance purement amicale. Il voulait prier son ami de s'informer des objets restés au Mont-de-Piété de la rue de Condé et aussi lui demander de passer chez Miss Fancy. De la fenêtre de sa chambre, Berthe suivait les deux amis qui, bras dessous, remontaient la route d'Orcival. Quelle différence, pensait-elle, entre ces deux hommes. Mon mari disait tout à l'heure qu'il voulait être l'intendant de son ami. Il n'a que trop l'air, en effet, de son intendant. Quelle démarche vraiment noble à le comte, quelle aisance gracieuse, quelle distinction suprême. Cependant, mon mari, j'en suis sûr, le méprise, parce qu'il s'est ruiné à faire des folies. Que n'est-il lui-même capable d'en faire ? Il affectait, j'ai cru m'en apercevoir, certains airs de protection. Pauvre garçon. Mais est-ce que tout, chez M. de Trémorel, n'annonce pas une supériorité innée ou acquise ? Tout, jusqu'à son prénom, Hector. Oh, comme il sonne ce nom ! Et elle prenait plaisir à le répéter avec des intonations différentes. « Hector, Hector, mon mari, lui, s'appelle Clément. » Monsieur de Trémorel revenait seul du chemin de fer, gai comme un convalescent à ses premières sorties. Dès que Berthe l'aperçut, elle quitta vivement la fenêtre. Elle voulait rester seule, réfléchir à cet événement qui tout à coup tombait dans sa vie, analyser ses sensations, écouter ses pressentiments, étudier ses impressions pour s'en rendre maîtresse, enfin arrêter, si elle pouvait, un plan de conduite. Elle ne reparut que pour se mettre à table, quand son mari, qu'on avait attendu, revint sur les 11 heures du soir. Sauvresy mourait de faim et de soif, il paraissait brisé de fatigue, mais son excellente figure rayonnait. « Victoire, ami Hector, disait-il, tout en avalant son potage trop chaud. Nous te tirerons des mains des Philistins. Dame, les plus brillantes plumes de tes ailes y resteront, mais on te sauvera assez de duvet pour te faire un bon nid. » Mère eut pour son mari un regard reconnaissant. « Et comment cela ? » demanda-t-elle. « Oh, c'est bien simple. Du premier coup, j'ai deviné le jeu des créanciers de notre ami. Il comptait obtenir la mise en vente de ses propriétés. Il les achetait en bloc, à vil prix, comme toujours en ces occasions. Et les revendait ensuite fort bien en détail et partageait le bénéfice. « Et tu empêcheras là cela ?» dit Trémorel d'un air incrédule. « Parfaitement. Oh, j'ai dérangé le plan de ces messieurs. J'ai réussi, ce qui est une chance. Mais j'ai du bonheur, moi, à les tous réunir le soir même. Vous allez leur, ai-je dit, nous laisser vendre volontairement de gré à gré. Sinon, je me mets de la partie et brouille les cartes. » Il me regardait d'un air goguenard. Mais mon notaire que j'avais amené ayant ajouté « Monsieur et Monsieur Sauvresy, et s'il veut 2 millions, demain le crédit foncier les lui avancera. » Nos hommes ont ouvert de grands yeux et ont consenti à tout ce que je voulais. Quoi qu'il en eût dit, Hector connaissait assez ses affaires pour savoir qu'avec cette transaction, lui sauverait une fortune petite en comparaison de celle qu'il possédait, mais enfin, une fortune. Cette certitude le ravit, et dans un mouvement de reconnaissance vrai, serrant entre ses mains les mains de Sauvresy, « Oh, mon ami, s'écria-t-il, c'est l'honneur après la vie que tu me donnes, comment m'acquitter jamais ? En ne faisant plus que des folies raisonnables, tiens comme moi, ajouta-t-il, en se penchant vers sa femme et en l'embrassant, et plus rien à redouter. « Rien. C'est que j'aurais morbleu emprunté les 2 millions, oui, et ils l'ont bien vu, mais ce n'est pas tout. Les poursuites sont arrêtées. Je suis allé à ton hôtel, et j'ai pris sur moi de renvoyer tous tes domestiques à l'exception de ton valet de chambre et d'un palefrenier. Si tu veux m'en croire, nous enverrons dès demain tous tes chevaux au Tattersall, où ils se vendront très bien. Quant au cheval que tu as l'habitude de monter, il sera ici demain. » Ces détails choquaient Berthe. Elle trouvait que son mari exagérait l'obligeance, descendant jusqu'à la servilité. Décidément, pensait-elle, il était né pour être intendant. Sauvresy poursuivait. « Enfin, sais-tu ce que j'ai fait ? Songeant que tu es arrivé ici comme un petit Saint-Jean, j'ai donné l'ordre de remplir 3 ou 4 balles de tes effets, on les a portées au chemin de fer et en arrivant, j'ai envoyé un domestique les chercher. » Hector lui aussi commençait à trouver l'obligeance de Sauvresy excessive et qu'il le traitait par trop en enfant ne sachant rien prévoir. Cette circonstance de son dénuement racontée devant une femme le blessait. Il oubliait que le matin même, il avait trouvé tout simple de faire demander du linge à son ami. Il cherchait une de ces plaisanteries fines qui sauvent une situation, lorsqu'il se fit un grand bruit dans le vestibule. Sans doute les mâles arrivaient. Berthe sortit pour donner des ordres. « Vite, pendant que nous sommes seuls, dit Sauvresy, voici tes bijoux. Oh, j'ai eu du mal à les avoir. Ils sont méfiants au Mont-de-Piété. Je pense bien qu'ils ont commencé par me prendre pour l'associé d'une bande de filous. » « Oh, tu n'as pas dit mon nom, au moins. »« Non, ça a été inutile. Mon notaire, par bonheur, était avec moi, alors On ne saura jamais tout ce qu'un notaire peut rendre de service. Ne penses-tu pas que la société est injuste envers les notaires ? Trémorel pensait que son ami parlait bien lestement de ces choses sérieuses, tristes même, mais cette légèreté de ton le contrariait. Pour finir, poursuivait Sorosi, j'ai rendu visite à Miss Fancy. Elle était au lit depuis la veille, on l'y avait portée après ton départ, et depuis la veille, m'a dit sa femme de chambre, elle ne cessait de sangloter à fendre l'âme. Elle n'avait reçu personne ? Personne, absolument. Elle te croyait bien mort, et quand je lui ai affirmé que tu étais chez moi très vivant et très bien portant, j'ai cru qu'elle deviendrait folle de joie. Sais-tu qu'elle est vraiment jolie ? Oui, elle n'est pas mal. Puis, c'est, je crois, une bonne personne. Elle m'a dit des choses extrêmement touchantes. Je parierais presque, mon cher ami, qu'elle ne tient pas seulement à ton argent et qu'elle a pour toi une sincère affection. Hector eut un beau sourire de fatuité. Affection, le mot était pâle. Bref, ajouta Sauvresi, elle voulait à toute force me suivre pour te voir, pour te parler. J'ai dû, pour obtenir qu'elle me laissât me retirer, lui jurer, avec d'épouvantables serments, qu'elle te verrait demain, non à Paris, puisque tu m'as déclaré que tu n'y voulais plus y remettre les pieds, mais à Corbeil. Ah, comme cela. Donc demain à midi, elle sera à la gare. Nous partirons d'ici ensemble. Pendant que je prendrai le train de Paris, tu monteras toi dans celui de Corbeil. Arrange-toi de façon à faire semblant de manger, et tu pourras là-bas offrir un déjeuner à Miss Fancy à l'hôtel de la Belle Image. Il n'y a pas d'inconvénient. Pas le moindre. Oh, la Belle Image est une grande auberge, que sa position à l'entrée de la ville, à 500 mètres du chemin de fer, met absolument à l'abri des curieux et des indiscrets. On peut d'ici s'y rendre sans être vu de personne, en suivant le bord de l'eau et en prenant la rue qui tourne le moulin d'Arblay. Hector préparait une objection, Sauvresi d'un geste, lui ferma la bouche. « Voici ma femme, dit-il, plus un mot. » En montant se coucher ce soir-là, le comte de Trémorel était déjà beaucoup moins enthousiasmé du dévouement de son ami Sauvresi. Il n'est pas de diamant où l'on trouve une tache en examinant à la loupe. « Le voici, se disait-il, prêt à abuser de son rôle de sauveur. Il se pose en mentor et fait des phrases. » Les choses ne seraient-ils donc vous obliger sans vous le faire sentir ? Ne semblerait-il pas que, par cette raison qu'il m'a empêché de me brûler la cervelle, je deviens quelque chose lui appartenant ? Pour un peu plus, il allait ce soir me reprocher les magnificences de Fancy. Où s'arrêtera son zèle ? Ce qui n'empêcha pas que le lendemain, au déjeuner, il prétexta un malaise pour ne pas manger et qu'il fit remarquer à Sauvresi qu'il allait manquer le train. Comme la veille, Berthe, accoudée à sa fenêtre, les regardait s'éloigner. Si grand était son trouble depuis 48 heures, qu'elle ne se reconnaissait plus elle-même. Déjà, elle en était à n'oser plus ni réfléchir, ni descendre au fond de son cœur. Quelle puissance mystérieuse possédait-il donc cet homme pour être ainsi violemment dans sa vie. Elle souhaitait qu'il s'éloignât pour ne plus revenir jamais, et en même temps, elle s'avouait qu'en partant, il emporterait sa pensée tout entière. Et elle se débattait sous le charme, ne sachant si elle devait se réjouir ou s'affliger des inexprimables émotions qui l'agitaient, s'irritant de subir une domination plus forte que sa volonté. Elle avait décidé que, de ce jour-là, elle descendrait au salon. Il ne manquerait pas, ne fût-ce que par politesse, d'y descendre, et alors, elle pensait que, le voyant de plus près, le faisant causer, le connaissant mieux, son prestige s'évanouirait. Sans doute il allait revenir, et elle guettait son retour, prête à descendre dès qu'elle le verrait au détour du chemin d'Orcival. Elle l'attendait avec des frémissements fébriles, anxieuse comme on l'est au moment d'une lutte, sentant bien que ce premier tête-à-tête, en l'absence de son mari, serait décisif. Mais le temps passait. Il y avait plus de 2 heures qu'il était sorti avec Sauvresy et il ne reparaissait pas. Mais où pouvait-il être? En ce moment même, Hector arpentait la salle d'attente du chemin de fer de Corbeil, attendant Miss Fancy. Enfin, il se fit dans la gare un grand remue-ménage. Les employés couraient, les hommes d'équipage traversaient la voie, roulant des brouettes, les portes s'ouvraient et se refermaient bruyamment. Le train arrivait. Bientôt, Miss Fancy parut. Sa douleur, sa joie, ses émotions ne l'avaient pas empêché de songer à sa toilette, et jamais elle n'avait été plus tapageusement élégante et jolie. Elle portait une robe vert d'eau avec une traîne d'un demi-mètre, un manteau de velours qui n'en finissait plus, et un de ces chapeaux nommés « chapeaux à accident » parce qu'ils font cabrer les chevaux de fiacre sur le boulevard. Dès qu'elle aperçut Hector, restée debout près de la porte de sortie, elle poussa un cri, écarta brusquement les gens qui se trouvaient sur son passage et courut se pendre à son cou, riant et pleurant tout à la fois. Elle parlait très haut, avec des gestes que sa toilette faisait paraître plus désordonnés, et tout le monde pouvait l'entendre. « Tu n'es donc pas tué, disait-elle, comme j'ai souffert, mais quel bonheur aujourd'hui !» Trémorel, lui, se débattait de son mieux, tâchant de calmer les bruyantes démonstrations de Fancy, la repoussant doucement, enchanté et irrité tout ensemble, et exaspéré de tous ses gros yeux fixés sur lui, en parisien habitué à passer inaperçu au milieu de la foule. C'est qu'aucun des voyageurs ne sortait, ils restaient tous là, béants, regardant, attendant. On les regardait, on les entourait, on faisait cercle, on était sur eux. « Alors viens !» fit Hector à bout de patience. Et il l'entraîna, espérant échapper à cette curiosité naïve et imprudente de désœuvrer pour qui tout est une distraction. Mais ils n'y échappèrent pas. On les suivit de loin. Même quelques habitants de Corbeil, montés sur l'impérial de l'omnibus qui fait le service entre la gare et le chemin de fer, prièrent le conducteur d'aller au pas afin de ne pas perdre de vue ces singuliers étrangers. Et ce n'est que lorsqu'ils eurent disparu sous le porche de l'hôtel que la voiture prit le trot. Ainsi furent déconcertées les prévisions de Sauvresy. L'entrée trop triomphale d'Eugénie fit sensation. On s'inquiéta, on alla au renseignement. L'hôtesse fut adroitement questionnée et bientôt on sut que ce monsieur, qui allait attendre à la gare des dames si excentriques, était un intime ami du propriétaire du Valfeuillu. Ni Hector ni Fancy ne se doutaient alors qu'ils étaient le sujet de toutes les conversations. Ils déjeunaient gaiement dans la plus belle chambre de la belle image, qui est une pièce immense à 2 lits avec une seule fenêtre donnant sur la place, décorée de tableaux bien vernis et bien encadrés, représentant des messieurs à cheval. Trémorel avait imaginé pour expliquer sa résurrection un petit roman, assez probable, où il jouait un rôle héroïque très propre à redoubler l'admiration de sa maîtresse. Puis, à son tour, Miss Fancy déroulait ses plans d'avenir qui étaient, il faut lui rendre cette justice, des plus raisonnables. Résolue à rester, quand même et plus que jamais, fidèle à son Hector ruiné, elle allait donner congé de son appartement de 6 000 francs, vendre son mobilier et entreprendre un commerce honnête. Justement, elle avait retrouvé une de ses anciennes amies, très habile ouvrière en mode, et qui ne demandait pas mieux que de s'associer avec une camarade qui apporterait l'argent pendant qu'elle apporterait son savoir-faire. Elles achèteraient un fonds de modiste dans le quartier Bréda, et entre leurs mains, ils ne pouvaient manquer de prospérer et de donner de faux bénéfices. Jenny parlait d'un petit air entendu, épuisant son répertoire de termes techniques Et Hector riait. Ses projets de négoce lui semblaient du dernier comique, mais il était très sensible à cette abnégation d'une femme jeune et jolie, consentant à travailler, à faire quelque chose, et cela pour lui plaire. Malheureusement, il fallait se séparer. Fancy était venu à Corbeil avec l'intention d'y passer une semaine, mais le comte lui déclara que c'était absolument impossible. Elle pleura d'abord beaucoup, se fâcha, puis finalement se consola à l'idée de revenir le mardi suivant. « Allons. Adieu, » répétait-elle en embrassant Hector. « Au revoir, pense à moi. » Et souriant avec un geste mutin, elle ajouta « Je devrais être inquiète, cependant il y avait dans le chemin de fer des messieurs qui connaissent ton ami et qui disaient que sa femme est peut-être la plus belle femme de France. Est-ce vrai ?»« Oh, je n'en sais ma foi rien, j'ai oublié de la regarder. » Hector ne mentait pas. Sans qu'il parût, il était encore sous l'empire des angoisses de son suicide manqué. Il subissait cet étourdissement qui suit les grandes crises morales, aussi bien que les chocs violents sur la tête, et qui empêche l'attention de s'arrêter aux choses extérieures. Mais ces mots « la plus belle femme de France » éveillèrent son attention, et il put, le soir même, réparer son oubli. Quand il rentra au Valfeuillu, son ami n'était pas encore de retour, et Madame Sauvresy était seule, lisant dans le salon, très vivement éclairé. Assise en face d'elle, mais un peu de côté, Hector pouvait l'observer à son aise, tout en égrenant quelques phrases banales. Sa première impression fut défavorable à Berthe. Il trouvait sa beauté trop sculpturale et aussi par trop accomplie. Il lui cherchait des imperfections et n'en trouvant pas, il s'effrayait presque de cette belle physionomie immobile, de ses yeux si clairs, dont le regard vous arrivait comme une pointe d'épée. Peut-être son instinct seul lui faisait-il redouter à lui, l'homme faible, vacillant, irrésolu, une nature énergique, déterminée, d'une audace implacable. Peu à peu, cependant, il s'habitua à passer avec Berthe une grande partie des après-midi, pendant que Sauvresy courait pour sa liquidation, vendant, négociant, usant ses journées à débattre des intérêts, à discuter avec des avoués et des agents d'affaires. Il s'était vite aperçu du plaisir qu'elle prenait à l'entendre, et pour cela il la jugeait une femme éminemment spirituelle et bien au-dessus de son mari. Il n'avait aucun esprit lui-même, mais seulement un fond inépuisable pour des années d'anecdotes et d'aventures. Il avait vu tant de choses, il s'était frotté à tant de gens, qu'il était intéressant à feuilleter comme une chronique. Il avait encore une certaine verve mousseuse, qui ne manquait pas de brillant, et un cynisme poli, qui, au premier abord, surprenait. Moins subjuguée, Berthe l'eût jugée à sa valeur, mais elle avait perdu son libre arbitre. Elle l'écoutait, plongée dans une sorte d'extase idiote, comme on écoute un voyageur revenu de ces pays étranges dont on ne revient pas, qui a visité des peuples dont on ignore même l'existence, vécu au milieu des mœurs et de civilisations incompréhensibles pour nous. Les jours, cependant, se passaient, les semaines, les mois, et le comte de Trémorel ne s'ennuyait pas au Valfeuillu autant qu'il l'aurait supposé. Insensiblement, il glissait sur cette pente douce du bien-être matériel qui mène droit à l'abrutissement. À sa fièvre des premiers jours avait succédé un engourdissement physique et moral, exempt de sensations désagréables s'il manquait de piquant. Il mangeait et buvait beaucoup et dormait ses 12 heures. Le reste du temps, quand il ne causait pas avec Berthe, il vaguait dans le parc, se balançait sur un fauteuil américain ou montait à cheval. Il alla même jusqu'à pêcher à la ligne au bout du jardin, sous les saules. Il engraissait. Ses meilleures journées étaient celles qu'il passait à Corbeil en compagnie de Miss Fancy. En elle, il retrouvait quelque chose de son passé, et toujours pour le réveiller, elle avait quelques querelles à lui faire. D'ailleurs, elle lui rapportait des bouffées d'air de Paris dans les plis de sa robe et à ses bottines de la boue des boulevards. Jenny venait très exactement toutes les semaines, et son amour pour Hector, loin de diminuer, semblait croître à chaque entrevue. Peut-être ne s'expliquait-elle pas parfaitement tous ses sentiments. Les affaires de la pauvre fille tournaient assez mal. Elle avait acheté son fonds bien trop cher, et son associé, au bout d'un mois, avait décampé, lui emportant 3 000 francs. Elle n'entendait rien au commerce qu'elle avait entrepris, et on la volait sans pudeur de tous les côtés. Elle ne disait rien de ses soucis à Hector, mais elle comptait bien lui demander de lui venir en aide. C'était bien le moins qu'il pût faire après l'immense sacrifice auquel elle s'était résignée pour lui. Dans les commencements, les habitués du Valfeuilly s'étonnèrent un peu de la continuelle présence de ce grand jeune homme qui traînait comme un boulet son désœuvrement, puis ils s'accoutumèrent à lui. Hector avait fini par se composer une physionomie mélancolique, ainsi qu'il convient à un être éprouvé par des malheurs inouïs et pour lequel la vie a menti à ses promesses. Il paraissait inoffensif, on l'adopta. On disait « Oh, le comte de Trémorel est d'une simplicité charmante !» Mais il avait à certains moments, lorsqu'il était seul, des retours soudains et terribles. « Cette vie ne peut durer, » pensait-il. Et des rages puériles le transportaient s'il venait à comparer le passé au présent. Comment secouer cette morne existence? Comment se délivrer de tous ces gens étroits comme la morale, plus plat que la réalité qui l'entourait, qui étaient les amis de Sauvresy? Mais où fuir? Où se réfugier? La tentation de paraître à Paris ne lui venait pas. Et d'ailleurs, qu'y ferait-il? Son hôtel avait été vendu à un ancien marchand de cuir verni. Il n'avait d'argent que celui qu'il empruntait à Sauvresy. Et c'était, ce Sauvresy, dans la pensée d'Hector, un ami terrible, envahissant, implacable, dur comme le chirurgien qui s'inquiète peu de faire crier sous le bistouri le malade qu'il doit sauver. Il ne comprenait dans les situations désespérées ni les demi-parties, ni les transactions. « D'abord que sombre, avait-il dit à Hector, jetons à la mer tout le superflu pour commencer. Ne gardons rien du passé, il est mort. Enterrons-le et que rien ne le rappelle. Ta situation liquidée, nous verrons. » Elle était fort laborieuse, cette liquidation. Les créanciers naissaient sous les pas de tous côtés et jamais la liste n'en était close. Il en venait même de l'étranger, de l'Angleterre. Plusieurs avaient certainement été payés, mais on ne pouvait leur présenter de reçus, et ils se fâchaient. Quelques-uns, dont les prétentions par trop exorbitantes furent repoussées, déclarèrent qu'ils plaideraient, espérant qu'on reculerait devant le scandale. Et Sauvresy fatiguait son ami par son incessante activité. Tous les 2 ou 3 jours, il se rendait à Paris, et il fit plusieurs voyages lors de la vente des propriétés de la Bourgogne et de l'Orléanais. Après l'avoir pris d'abord en Guignon, le comte de Trémorel le détestait nettement. Il le haïssait. L'air constamment heureux de Sauvresy faisait son désespoir. La jalousie le poignait. Une seule pensée, une pensée détestable, le consolait un peu. Le bonheur de Sauvresy, se disait-il, vient surtout de ce qu'il est un imbécile. Il croit sa femme folle de lui, et la vérité et qu'elle ne peut le souffrir. Berthe, en effet, en était venue à laisser deviner à Hector son aversion pour son mari. Elle n'en était plus à étudier les mouvements de son cœur, elle aimait Trémorel, et elle se l'avouait. À ses yeux prévenus, il réalisait absolument l'idéal de ses rêves enfiévrés. mais elle était en même temps exaspérée de lui y voir aucun amour pour elle. Sa beauté n'était donc pas irrésistible comme elle l'avait souvent entendu dire. Il était avec elle empressé, galant même, mais rien de plus. S'il m'aimait, pensait-elle, non sans colère, hardi comme il l'est avec les femmes, ne redoutant rien ni personne, il me le dirait. Et elle se prenait à détester cette femme, enfin cette rivale, qu'il allait retrouver toutes les semaines à Corbeil. Elle eût voulu la connaître, la voir. Qui pouvait-elle être? Était-elle bien belle? Hector avait été impénétrable au sujet de Miss Fancy. Adroitement interrogé, il avait répondu très vaguement, n'étant pas fâché de laisser l'imagination de Berthe s'égarer en suppositions qui ne pouvaient être que très flatteuses pour lui. Enfin, un jour arriva où elle ne sut plus résister aux obsessions de sa curiosité. Elle prit la plus simple de ses toilettes noires, jeta sur son chapeau un voile très épais et courut à la gare de Corbeil à l'heure où elle supposait que l'inconnu devait repartir. Elle s'était établie dans la cour sur un banc que dissimulaient deux camions. Elle n'attendit pas longtemps. Bientôt, à l'extrémité de l'avenue qu'elle pouvait surveiller de sa place, elle vit s'avancer le comte de Trémorel et sa maîtresse. Ils se donnaient le bras et avaient l'air des plus heureux amoureux de la terre. Ils passèrent à trois pas d'elle, et comme ils marchaient fort lentement, elle put examiner Miss Fancy à son aise. Elle la trouva jolie et sans la moindre distinction. Ayant vu ce qu'elle voulait voir, rassurée par cette certitude, prouvant son inexpérience, que Jenny, étant une fille de rien, n'était pas à craindre, Berthe ne songea plus qu'à se retirer bien vite. Mais elle prit mal son temps. Au moment où elle dépassait les voitures qui la cachaient, Hector sortait de la gare. Ils se croisèrent à la grille et leurs yeux se rencontrèrent. La reconnut-il? Son visage exprima la plus vive surprise. Cependant, il ne salua point. « Oui, il m'a reconnu, » pensait Berthe en regagnant le Valfeuilly par le chemin du bord de l'eau. Et, surprise, un peu épouvantée de son audace, elle se demandait si elle devait s'affliger ou se réjouir de cette rencontre. Qu'en résulterait-il ? À 10 minutes de distance, Hector la suivait le long de cette route qui côtoie la Seine. Il était lui aussi singulièrement étonné. Depuis longtemps, déjà, sa vanité, toujours en éveil, l'avait prévenu de ce qui se passait dans l'esprit de Berthe, mais bien que la modestie ne fût pas son défaut, il était loin de croire à un sentiment assez vif pour déterminer une pareille démarche. « Elle-même, » se répétait-il tout en marchant, « elle-même. » Il ne savait encore à quoi se résoudre. Fuirait-il? Resterait-il le même avec elle, feignant de ne pas l'avoir aperçue? Cependant, il n'y avait guère à hésiter. Il devait fuir vite le soir même, sans hésiter, sans détourner la tête, fuir comme si la maison eût été sur le point de s'écrouler sur sa tête. Ce fut sa première pensée. Elle fut promptement étouffée sous l'explosion des passions basses et viles qui fermentaient en lui. Ah ! Sauvresy lui avait tendu la main quand il se noyait. Sauvresy le recueillait après l'avoir sauvé. Il lui ouvrait son cœur, sa maison et sa bourse. En ce moment même, il s'épuisait dans l'effort pour lui reconstituer une fortune. Les hommes de la trempe du comte de Trémoril ne peuvent recevoir que comme des outrages de si grands services. Mais est-ce que son séjour au Valfeuillu n'était pas une souffrance continuelle? Est-ce que, du matin au soir, son amour-propre n'était pas à la torture? Il pouvait compter les jours par humiliation. Quoi, il lui fallait subir, sinon reconnaître la supériorité d'un homme qu'il avait traité inférieur. D'ailleurs, pensait-il, jugeant sur le sien le cœur de son ami, n'est-ce pas uniquement par orgueil, par ostentation qu'il se conduit si bien en apparence avec moi? Que suis-je à son château, sinon le vivant témoignage de sa munificence, de sa générosité, de son dévouement? Il semble plus vivre que pour moi, Trémorel par-ci, Trémorel par-là. Il triomphe de ma défaite, il se part de ma ruine, il s'en fait une gloire et un titre à l'admiration publique. Décidément, il ne pouvait pardonner à son ami d'être si riche, si heureux, si estimé, d'avoir su régler sa vie, tandis que lui, à 30 ans, il avait gaspillé la sienne. Et il ne saisirait pas l'occasion qui se présentait de se venger de tant de bienfaits qui l'accablaient. Oh, si! En définitive, se disait-il, essayant d'imposer silence au sourd murmure de sa conscience, « Suis-je allé la chercher, sa femme? Elle vient à moi de son plein gré, d'elle-même, sans la moindre tentative de séduction. La repousser serait une duperie. » L'envie a d'irrésistibles arguments. La détermination d'Hector était irrévocable lorsqu'il entra au Valfeuillu. Il ne partit pas. Et il n'avait cependant ni l'excuse de la passion, ni l'excuse de l'entraînement. Il n'aimait pas. Il n'aima jamais la femme de son ami. Et son infamie fut réfléchie, raisonnée, froidement préméditée. Mais entre elle et lui, une chaîne se riva, plus solide que les liens fragiles de l'adultère, leur haine commune pour Sauvresie. Il lui devait trop l'un et l'autre. Sa main les avait retenus au bord du cloaque où ils allaient rouler. Car Hector ne se serait pas brûlé la cervelle, car Berthe n'aurait pas trouvé de mari. Fatalement, ils en seraient arrivés, lui, à traîner en compagnie de chevaliers d'industrie un grand nom déshonoré, et elle, à étaler sur les chaises du boulevard une beauté flétrie. Les heures de leur premier rendez-vous se consumèrent en paroles de colère, bien plutôt qu'en propos d'amour. Ils sentaient trop profondément, trop cruellement l'ignominie de leur conduite pour ne pas chercher à se rassurer contre leurs remords. Ils s'efforçaient de se prouver mutuellement que Sauvresie était ridicule et odieux, comme s'ils eussent été absous par ces ridicules, en admettant qu'il en eût. Si en effet notre monde est horrible à ce point que la confiance y soit une sottise, il fut un sot, cet homme de cœur qu'on trompait sous ses yeux dans sa maison. Il fut un sot, car il avait foi en sa femme et en son ami. Il ne se doutait de rien, et tous les jours il se félicitait d'avoir réussi à retenir Trémorel, à le fixer. À tout venant, il répétait sa fameuse phrase « Je suis trop heureux !» Berthe, il est vrai, dépensait pour entretenir ses riantes illusions des trésors de duplicité. Elle, si souvent capricieuse autrefois, nerveuse, volontaire, elle devint peu à peu soumise jusqu'à l'abnégation et d'une angélique douceur. De son mari dépendait l'avenir de sa liaison, et rien ne lui coûtait pour empêcher le plus léger soupçon d'effleurer sa naïve sécurité. Elle payait l'horrible tribut des femmes adultères, réduites par la peur, par leurs anxiétés de tous les instants, aux feintes les plus honteuses et les plus déshonorantes de la passion. Telle fut d'ailleurs leur prudence que, chose rare, personne dans leur entourage ne se douta jamais de rien. Et cependant, Berthe n'était pas heureuse. Cet amour ne lui donnait rien des joies célestes qu'elle en avait attendues. Elle espérait être emportée dans les nuages, et elle restait à terre, se heurtant à toutes les misérables vulgarités d'une vie de transes et de mensonges. Peut-être s'aperçut-elle que pour Hector, elle était surtout une vengeance, qu'en elle il aimait surtout la femme enlevée à un ami lâchement envié. Et pour comble, elle était jalouse. Après plusieurs mois, elle n'avait pu obtenir de Trémorel qu'il rompît avec Miss Fancy. Toutes les fois qu'elle se résignait à aborder cette question si humiliante pour elle, il avait la même réponse, prudente et sensée peut-être, mais à coup sûr injurieuse et irritante. « Mais songez, je vous prie, Berthe, répondait-il, que Miss Fancy a notre sécurité. » Le fait est cependant qu'il songeait au moyen de se débarrasser de Jenny. L'entreprise présentait des difficultés. Tombée dans une misère relative, la pauvre fille devenait plus tenace que le lierre et désespérément se cramponnait à Hector. Elle lui faisait souvent des scènes, prétendant qu'il n'était plus le même, qu'il changeait, et elle était triste, elle pleurait, elle avait les yeux rouges. Un soir, dans un accès de colère, après avoir attendu en vain son amant une partie de la journée, elle lui avait fait des menaces singulières. « Tu as une autre maîtresse, lui avait-elle dit, je le sais, j'en ai la preuve. Prends garde. Si jamais tu me quittais, c'est sur elle que tomberait ma colère et crois que je ne ménagerai rien. » Le comte de Trémorel eut le tort de n'attacher aucune importance aux propos de Miss Fancy. Cependant, il hâtèrent la séparation. « Oh, elle devient insupportable, pensait-il. Et si un jour je ne venais pas, elle serait capable de me relancer jusqu'au Valfeuillu et d'y faire un scandale affreux. » C'est pourquoi, les plaintes et les larmes de Berthe aidant, il s'arma de courage et partit pour Corbeil, résolu à rompre à tout prix. Il prit, pour annoncer ses intentions, toutes les précautions imaginables, cherchant de bonnes raisons, des prétextes plausibles. « Il faut être sage, vois-tu, Jenny, disait-il, et pour un temps cesser de nous voir. Je suis ruiné, tu le sais, un mariage seul peut me sauver. » Hector s'était préparé à une explosion terrible de fureur, à des cris perçants, à des attaques de nerfs, à des évanouissements. Rien. À sa grande stupéfaction, Miss Fancy ne répondit pas un seul mot. Seulement, elle devint plus blanche que sa collerette, ses lèvres d'ordinaire si rouges blêmirent, ses grands yeux s'injectèrent non de sang mais de bile. « Ainsi, fit-elle, les dents serrées par la colère contenue, ainsi tu te maries. »« Mais il le faut bien, hélas, répondit-il avec un soupir hypocrite. Songe que dans ces derniers temps, je n'ai pu être utile qu'en empruntant de l'argent à mon ami. Sa bourse ne sera pas éternellement à ma disposition. » Miss Fancy prit les mains d'Hector et la tira au jour près de la fenêtre. Là, le fixant, comme si l'obstination de son regard eût pu faire tressaillir la vérité en lui, elle lui dit lentement en scandant ces mots. « C'est bien vrai, n'est-ce pas? Si tu m'abandonnes, c'est pour te marier. » Hector dégagea une de ses mains pour l'appuyer sur son cœur. « Je te le jure sur mon honneur, affirma-t-il. Alors je dois te croire. » Jenny était revenue au milieu de la chambre. Debout, devant la glace, elle remettait son chapeau, disposant gracieusement les brides, tranquillement, comme si rien ne s'était passé. Quand elle fut prête à sortir, elle revint à Trémorel. « Une dernière fois, demanda-t-elle d'un ton qu'elle s'efforçait de rendre ferme et que démentaient ses yeux brillants d'une larme près de rouler. « Une dernière fois, Hector, c'est bien fini. Il le faut. Fancy eut un geste que Trémorel ne vit pas. Sa figure prit une expression méchante. Ses lèvres s'ouvrirent pour quelque réponse ironique, mais elle se ravisa presque aussitôt. « Je pars, Hector, » dit-elle, après un moment de réflexion. « Si c'est vraiment pour te marier que tu me quittes, jamais tu n'entendras parler de moi. Mon enfant, j'espère bien que je resterai ton ami. Bien, bien, si au contraire, comme je le crois, c'est pour une autre maîtresse que tu m'abandonnes, rappelle-toi ce que je te dis. Tu es un homme mort et elle une femme perdue. » Elle ouvrait la porte, il voulut lui prendre la main, elle le repoussa. « Adieu !» Hector courut à la fenêtre pour s'assurer de son départ. Oui, elle se résignait, elle remontait l'avenue qui conduit à la gare. « Allons, se dit-il, ça a été dur, mais moins que je ne croyais. Vraiment, Jenny était une bonne fille. »